le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et très bon début de journée à vous qui nous rejoignez sur France Culture pour le service protestant. Aujourd'hui, nous recevons Corinne Ackley, pasteur de l'Église protestante unie de France, qui nous propose aujourd'hui de parler du temps. Alors, on ne va pas parler de la météo, ni du temps qu'il fait, mais on va parler du temps qu'on exprime en termes de durée. Bonjour Corinne.
Bonjour Michel. C'est ça, je voudrais vous parler du temps chronologique et du temps favorable.
Alors, l'expression du temps est une chose très ancienne. On en trouve des traces déjà dans les textes de l'Ancien Testament.
L'Ecclésiaste, par exemple, il dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour saper et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. »
Régulièrement en France, l'heure légale change, comme dans bien d'autres pays d'ailleurs, et on dit qu'on va perdre ou gagner une heure de sommeil. Ces changements ont lieu fin octobre pour le passage à l'heure d'hiver et fin mars pour l'heure d'été. Alors que ni l'hiver ni l'été ne commencent à ces dates, Corinne.
Ce que je sais, c'est que en hiver, nous avons une heure de décalage avec l'heure solaire, et même une heure et quart. À 8h30, il n'est que 7h15 au soleil. Et puis en été, comme maintenant, à 8h30, il n'est que 7h15. Voilà, la mesure du temps, c'est bizarre.
Oui, la mesure du temps, en fait, on se rend compte que c'est qu'une convention, finalement, qui nous permet de nous situer et de nous orienter dans le monde.
Le temps structure notre pensée, notre vie quotidienne. Si on revient dans les temps anciens, la précision du temps a toujours représenté une quête scientifique, philosophique. De clepsydre en sablier, de cadran solaire en horloge astronomique, de montre à quartz en montre kinétique, on en est arrivé maintenant à l'horloge atomique qui mesure notre temps grâce à l'atome de césium, avec une précision de l'ordre de 16 chiffres après la virgule d'une seconde. Mais la déviation d'une horloge au césium serait d'une seconde tous les 10 000 ans. Celle d'une horloge à quartz est d'une seconde par mois.
Une précision qui donne le vertige en fait. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du temps dans cette émission aujourd'hui ?
Michel, je pense que le temps fait partie de notre quotidien. En fait, c'est parce que nous n'avons pas toute l'éternité devant nous. Notre temps est mesuré. Notre vie dure plus de temps, se plaint Moïse dans le psaume 90. Il dit « Notre vie dure peu de temps. Le temps d'un soupir, voilà nos années finies. Quelle sera la durée de notre vie ?» 70 ans, 90 pour les plus vigoureux. Une longue vie n'apporte souvent que fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère? Elle est aussi grande que notre respect pour toi. Notre vie est si courte. Apprends-nous à bien compter nos jours. Alors notre cœur s'emplira de sagesse.
Thank you. nous avez lu des extraits de l'Ancien Testament où il était question du temps, mais le texte de l'Évangile que nous allons découvrir ce matin, que vous nous proposez de découvrir, contient aussi une question de temps.
Ah oui, c'est un texte qui normalement ne parle pas du temps, mais je vous invite à y noter toutes ces petites indications qui marquent le rythme. C'est le chapitre 11 de l'Évangile selon Marc. Chapitre 11, si vous voulez nous le lire à partir du verset 11.
Alors, je vais vous lire ce texte et effectivement essayer de repérer les endroits où les questions du temps. Jésus entra dans Jérusalem et se rendit dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà tard. Le lendemain, au moment où il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il vit de loin un figuier couvert de feuilles, et il alla regarder s'il y trouvait des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Que personne ne mange plus jamais de tes fruits !» Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent ensuite à Jérusalem. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Puis, il leur enseigna ceci. Dans les Écritures, Dieu déclare « On appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, ajouta-t-il, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprirent cela et ils cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. En effet, ils avaient peur de lui parce que toute la foule était impressionnée par son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Vous écoutez le service protestant, nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Corinne Ackley et nous nous intéressons au temps à partir d'un texte de l'évangile de Marc, le fameux texte où Jésus chasse les marchands du temple, Corinne.
Mais oui, dans ce texte, Michel, il y a plusieurs indications chronologiques. Il est temps pour Jésus de monter à Jérusalem, il est temps d'entrer dans le temple, mais pas encore temps de chasser les vendeurs, puisque Marc nous précise qu'il est déjà tard. Temps donc de rentrer à Béthanie et temps d'en repartir. Et puis sur la route, Jésus a faim, il est l'heure du petit déjeuner. Il y a un figuier ici, mais ce n'est pas la saison pour les figues. Pour le figuier, ce n'est pas le bon moment. Et il va passer un bien mauvais quart d'heure. Temps de la colère, temps de l'instruction biblique, ses disciples l'écoutent. Et ensuite, temps du passage à l'acte et de la violence. Et puis enfin, temps de s'en aller, car la nuit approche de nouveau et menace de mort se fait oppressante. Tout est question de temps, de saison propice, de moments charnières, d'instant T, de jour J, de moments clés.
Alors pour nous aussi, encore aujourd'hui, hein, le temps est partout, on s'en sert pour organiser notre quotidien, mais on sait que sa perception est très relative. Hein. Une heure peut paraître très longue dans un embouteillage ou très courte à l'écoute d'une bonne émission de radio. Vous pouvez nous expliquer un peu ce contraste de perception?
Non, nous avons vraiment tous un rapport très différent au temps. Certaines personnes chronomètrent toutes leurs actions, tandis que d'autres peuvent vivre sans montre. Il existe beaucoup de méthodes pour optimiser son temps, mais laquelle allons-nous choisir?
Alors, il existe différentes façons d'aborder le temps, mais il existe aussi différentes conceptions du temps. Vous allez nous les présenter, ces différentes conceptions, dans un instant, différentes conceptions qui étaient déjà présentes hein, à l'époque de Jésus. On réfléchit sur le temps avec vous, Corinne Acli, dans ce service protestant. Et on disait qu'il y avait différentes conceptions du temps, différents niveaux de compréhension du temps. Vous allez nous les présenter en revenant à l'époque de la Grèce antique, en fait.
C'est-à-dire, en tout cas pour notre Occident, nous avons été très fortement influencés par l'Antiquité grecque. Pour les Grecs, il y a trois types de temps. Il y a le bien connu Chronos, et puis le Kairos, et puis le Aion.
Alors on va les définir. Oui.
Chronos, c'est le temps physique, c'est le temps que nous allons mesurer chronologiquement. Kairos, c'est le temps métaphysique. C'est le point de basculement, il y a un avant et un après. Et puis Aion, c'est le temps cyclique. Alors, si vous voulez, dans la mythologie grecque, Chronos, c'était un dieu qui représentait la personnification du temps, et notamment les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit. Chronos, c'est celui que nous connaissons tous, c'est le temps physique. Il permet de segmenter le temps en passé, présent, futur, grâce à des unités de mesure telles que la seconde, la minute, la journée, voilà.
D'accord.
Et parfois nos exploits sont chronométrés et le temps libre est rare. Alors ce temps chronologique, il est quantitatif, linéaire. Ce dieu, Chronos, il était fils de Gaïa et de Hydros. Il aurait marié lui-même Ananké, qui était la personnification de la destinée. Alors il ne faut pas le confondre avec un deuxième Chronos, qui est également fils de Gaïa, mais qui avait pour père Ouranos et qui aurait mangé ses enfants.
D'accord.
Alors, il y a deux chronos un peu différents.
C'est le chronophage alors.
Mais alors voilà, mais de toute façon nous aussi nous connaissons des activités chronophages qui dévorent notre emploi du temps, qui débordent de nos agendas.
Voilà, donc ça c'est le temps qu'on remplit, qu'on utilise, qu'on segmente. Et puis il y a ce temps du kairos que vous avez indiqué comme un temps métaphysique.
C'est l'occasion à saisir.
Quelque chose de spécial.
Par exemple, on se dit maintenant c'est le bon moment pour agir, sans qu'aucun élément objectif permette de valider cette affirmation. Contrairement à Chronos, le temps kairos n'est pas linéaire, il est qualitatif. C'est un temps entre deux qui ne se mesure pas, qui est immatériel. Il se ressent, c'est une autre dimension du temps. Comme Chronos, la mythologie grecque explique que kairos était un dieu jeune et échevelé. Il était connu et il était vénéré du temps de Jésus, donc c'est important de le connaître. Il est représenté comme un jeune homme aux pieds ailés. Sa chevelure est ramenée vers l'avant, en fait il est chauve à l'arrière. Et au moment où il passait pour vous, il fallait avoir le réflexe de saisir sa chance, de le retenir par les cheveux, de ne pas rater la bonne occasion.
D'accord.
C'est pour ça que kairos, c'est l'instant favorable, le tout de suite, maintenant.
C'est la bonne opportunité.
Oui.
Voilà.
L'occasion à saisir, à ne pas rater.
D'accord. Et donc, un troisième temps, peut-être moins connu que le kairos et le chronos, c'est l'aion.
Oui, mais si je le traduis en français, vous allez voir que vous le connaissez très bien. Aion, c'est aussi une divinité grecque qui est associée au temps. En fait, c'est le cercle qui englobe l'univers selon les croyances grecques et les figures du zodiaque. Donc déjà, vous comprenez le zodiaque. Et c'est le temps des saisons, le temps des cycles,
d'accord,
le temps des fêtes religieuses qui reviennent, des anniversaires, des commémorations. C'est aussi le temps de la respiration, avec tout le cycle de la respiration, le cycle du sommeil. C'est Aion. Alors lui, il n'a pas de borne, et il peut aussi signifier l'âge, la génération. Par exemple, quand on dit de génération en génération. Et il peut aussi signifier l'éternité. Selon votre thème astral, vous pouvez subir une influence faste ou néfaste de Aion. Et Aion, vous le connaissez à cause de la géologie. Il désigne une période infiniment longue, comme les phases géologiques de la formation de la Terre. On va le traduire par éon, en français, ou ère, ou âge, comme dans l'expression âge de pierre.
D'accord.
Et dans le Nouveau Testament, c'est le mot Aion qui est utilisé pour parler de l'éternité et de la vie éternelle, la vie en plénitude. Vous voyez, par exemple, le Notre Père, la prière du Notre Père, se termine par « Eistus Aionas, Amin, au siècle des siècles, Amen ». Vous voyez que vous connaissez en fait Aion, mais sans le savoir.
Effectivement, c'est quelque chose de connu, ce temps cyclique en fait que l'on retrouve, et puis cette éternité d'âge en âge que l'on retrouve dans ce terme Aion. Alors revenons au texte biblique de ce matin, dans l'évangile de Marc. Vous avez relevé différentes allusions au temps.
Oui, ce chapitre 11, Jésus manque de temps, il a faim tout de suite. Il s'attaque à un figuier qui est hors saison, donc c'est la colère et l'impatience. Mais le figuier, lui, il suit le cycle perpétuel des saisons aïon. Alors que pour Jésus, c'est le temps kairos qui est venu. C'est le moment à saisir. Le Fils de Dieu passe, et voilà que le figuier n'est pas prêt. Pour reprendre l'image de l'heure légale, on pourrait dire que le figuier en est resté à l'heure d'hiver, alors que nous sommes passés à l'heure d'été. Il ressemble à ces paroissiens qui oublient de changer leur montre et arrivent au culte juste avant la bénédiction finale. Mais Jésus exige la ponctualité.
Bon, dans l'évangile de Marc, on nous précise que ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus devait le savoir. Ça veut dire quoi, en fait, pour nous ?
Mais ce que Jésus a en vue, c'est le temps nouveau où Dieu fera toutes choses nouvelles. Alors le figuier stérile sera remplacé par l'arbre au milieu de la cité céleste qui nous est décrit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Au milieu de la place de la ville et sur les deux rives du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant des fruits 12 fois l'an, donnant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
Alors là, quand même, Jésus, il est vraiment en colère. Il ne fait pas du tout allusion à cet arbre de l'Apocalypse, évidemment, mais il est vraiment en colère. Il y a une sorte d'impatience, là.
Mais c'est parce qu'il parle du peuple de Dieu, en fait. Le figuier représente le temple et le peuple que Dieu a mis à part pour un service précis. Un jour, les saisons seront abolies et le peuple de Dieu, symbolisé par ce figuier, pourra lui aussi porter du fruit réellement chaque jour, tous les mois, tous les ans, guérir les nations aussi avec son feuillage. C'est une aide concrète au service de tous, une solidarité humaine plus fraternelle. Et Jésus est dans l'impatience de voir arriver ce temps, ce kairos.
Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. De visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire.
Nous sommes toujours dans le service protestant avec Corinne Ackley. Corinne Ackley, vous nous dites que dans l'évangile de Marc, eh bien, on nous dit que Jésus n'a pas le temps, comme dans cette chanson que vous nous avez proposé d'entendre. Il est très impatient, en fait, et il est même en colère contre les vendeurs du temple, en colère contre ce figuier. Et vous nous dites que ce figuier représente son peuple. Ça veut dire, en fait, que, eh bien, Jésus, il est en colère contre tout le monde, là.
Oui, en tout cas contre moi aussi, moi qui suis à son service, moi qui suis censé être dans le peuple, je suis censé porter du fruit au service de mes contemporains. Alors ce n'était pas la saison des figues, belle excuse. Si à chaque fois que le Seigneur se présente à ma porte ou devant mon figuier, je lui réponds que ce n'est vraiment pas le bon moment, que je n'ai pas le temps, qu'il n'est pas disponible, qu'il faut qu'il aille voir ailleurs, qu'il appelle quelqu'un d'autre, ou qu'il revienne demain, ou bien plus tard, quand je serai grande, quand je serai vieille, quand je serai morte. Si à chaque fois qu'il me demande du fruit, je ne suis pas prête, et s'il renonce alors à me déranger, s'il me trouve inutile et improductive, c'est là que mon temps deviendra stérile. Ma vie tournera en rond sur elle-même, en ronron quotidien. Saisir le temps favorable, se tenir prêt. Voici le défi de chaque minute. À la femme de Samarie, dans l'évangile de Jean, Jésus disait « Femme, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Et l'apôtre Paul dit aux gens de Corinthe « Le temps se fait court. » Car ce monde, tel que nous le connaissons, est en train de passer. Dans cette phrase, c'est le thème de Kairos qui est utilisé. Le Kairos se fait court. Il y a une idée d'immédiateté, d'urgence à vivre maintenant. Et en plus, Paul, qui est un grand voyageur, emploie un thème beaucoup plus imagé dans cette phrase. C'est pas seulement le temps se fait court, c'est le temps à carguer ses voiles. Autrement dit, nous approchons déjà du port.
Oui, là c'est un langage de la marine. Larguer les amarres, hisser la grand voile. Larguer les amarres, c'est donc détacher le bateau pour partir à l'aventure. C'est le temps qui assure la manœuvre, comme si nous étions embarqués dans un voyage qui a un début et une fin, puisque là il est question de carguer les voiles, c'est-à-dire que c'est le temps de resserrer les cordages, de ramener la voilure, d'arriver au port.
Oui, parce que pour l'apôtre Paul, nous sommes déjà arrivés au bout de notre histoire humaine. La fin est proche, puisque le Christ, vivant auprès du Père, est devenu victorieux du mal et de la mort, c'est-à-dire que lui est déjà arrivé par sa résurrection. Il a déjà jeté l'ancre en Dieu lui-même, et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à accoster. Alors je ne sais pas si c'est la fin du monde, ou si c'est la fin d'un monde qui va arriver. La fin des temps, c'est aussi l'arrivée de temps nouveaux, une sorte de plénitude différente du temps fragmenté que nous connaissons. C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur, qui arrivera peut-être demain, ou dans une minute, ou dans un an, ou dans des centaines de milliers d'années. Nous n'en sommes peut-être qu'à l'aurore du christianisme. Mais nous croyons fermement que le monde à venir est déjà présent en Jésus-Christ.
Mais alors cette fin des temps concerne peut-être toute l'humanité, mais c'est peut-être aussi à prendre de manière individuelle. L'heure de la rencontre, l'heure du figuier, c'est pour chacun, à différents moments de son existence, le bon moment qui arrive.
Mais saurons-nous reconnaître alors le passage du Seigneur dans notre rue, dans notre quartier, dans notre temple, pour saisir le temps Kairos et faire route avec lui?
Voilà, Corinne Acli, avec cet texte ancien, vous avez voulu aujourd'hui nous rappeler l'importance de saisir le temps présent. Notre émission va bientôt toucher à sa fin. Le chronomètre a continué à tourner. Pendant ce temps-là, c'est le bon moment, le Kairos. Alors peut-être pour peut-être pas une conclusion, mais une dernière réflexion, peut-être votre impression.
Je dirais que ces pages de la Bible viennent à nous à travers des générations, de nombreuses transmissions, des traductions aussi, plus ou moins heureuses. Elles sont un peu une exhortation à réfléchir sur notre manière d'aborder la vie au quotidien. Que Dieu nous mette au cœur de bien compter nos jours et de saisir le moment favorable.
Merci Corinne Acli d'être venue jusqu'à ce micro pour partager ce temps avec nos auditeurs.
Merci et bon dimanche à vous Michel, bon dimanche à vous et merci pour le temps que vous avez partagé avec nous.
Ainsi s'achève ce service protestant avec Corinne Acli, pasteur de l'Église protestante unie de France. Merci à Viviane Noël et à Jean-Louis Deloncle pour la réalisation, la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Retrouvez cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Je vous retrouve tout de suite avec Culture protestante.